simplement dans les isolants dont vous avez parlé à deux ou trois moments brefs de liège. Est-ce que vous avez utilisé du liège?
Alors oui, moi je l'utilise, mais pas partout, parce que c'est un matériau qui coûte quand même cher, et c'est un matériau qui est imputrescible. Alors voilà pourquoi je l'utilise, moi, sur les terre-pleins humides, ça c'est génial, dans les caves, sous les caves, mais je ne vais pas l'utiliser n'importe où non plus, quoi, parce que ça coûte cher.
Est-ce que vous avez eu les fourmis livrées avec?
Ah non, vous avez eu ce malheur? Ah oui.
J'ai découvert dans des panneaux que je n'avais pas utilisés, une belle fourmilière. C'est un empilement de panneaux, si vous voulez.
Oui.
Et quand vous les découvrez, vous avez une belle boule à l'intérieur qui est garnie de poudre de liège. On vous en vend d'ailleurs aussi de la poudre de liège pour colmater avec le ciment colle, etc. etc. Et à l'intérieur, il y a une jolie...
Ah bah vous êtes tombé,
ça remonte à... Oui, je suis tombé sur le nid, mais il y a 30 ans, ça.
Ah, alors ils font peut-être beaucoup plus attention au nom.
Ah, je sais pas. Moi, j'ai fait attention.
Ah oui, parce que...
Je vais pas reconstruire.
Mais les fourmis...
Donc, à voir, je sais pas. Parce que vous dites imputrescible, moi, c'est ce qui m'avait...
Imputrescible, ça, c'est sûr. Oui, c'est oui. Vous avez, par exemple, on cite toujours pour l'anecdote les à la Villette, là, avant de raser à Paris pour faire le centre Beaubourg, il y avait tous ces grands frigidaires énormes qui étaient tapissés de liège à l'intérieur. Et ben, on les a retrouvés nickel, comme si de rien n'était, quand on a tout déconstruit.
Parce que moi, j'en ai mis en plancher dans les combles,
oui.
En surépaisseur.
Oui.
J'en ai mis aussi en...
En rampant
En cloison. Enfin, sur une petite zone en cloison.
Oui.
Et aussi en plafond, dans une pièce en sous-sol.
Oui.
Et dans la pièce en sous-sol, j'ai des petites perforations sur le...
Ils sont dus à quoi, votre avis?
Des fourmis. Enfin, je suppose...
Décidément.
Je suppose, puisque dans la pièce au-dessus, j'ai des fourmis qui arrivent.
Ah, il faudrait... Oui,
mais je ne les vois pas dans la...
Et pour les termites, vous avez une solution?
Ah oui, alors les termites, c'est vrai que en l'occurrence, moi je suis dans une zone où on n'est pas...
On va peut-être prendre des questions dans l'ordre pour ne pas s'éparpiller, parce qu'il y a plein de gens qui attendent là.
On a plus la mérule. C'est un champignon qui se développe dans les villes.
Moi je suis sur Brive.
Et vous avez la...
Bah, je ne suis pas très très loin, hein, la Dordogne. Dans le Loc, il y a des termites.
On prend la question au fond.
Oui,
pardon.
Dans les maisons anciennes où les murs sont recouverts de plâtre, est-ce qu'il est préférable d'enlever le plâtre avant d'entreprendre l'isolation ou on peut le laisser?
Alors j'ai souvent le cas, ça dépend vraiment. Quand c'est à l'étage, que vous ne voyez pas d'humidité, que tout va bien, gardez-le. Très souvent, on faisait des très beaux plâtres. Les plâtres à l'ancienne, ils sont remarquables très souvent. Mais quand on est au rez-de-chaussée, j'ai souvent constaté que le plâtre était gorgé d'eau. Et alors là, il ne faut pas hésiter, il faut le déposer.
Attendez,
toi, tu as une...
Non, mais si le plâtre est gorgé d'eau, c'est qu'il y a un problème d'humidité.
En plus, alors il faut déjà régler le problème.
C'est pas le plâtre. Le plâtre est un matériau absolument merveilleux.
Oui, c'est merveilleux. Il a cette capacité de restituer l'eau, de la... Mais quand il a été longtemps, et qu'il y a des auréoles partout, et puis des fentes et tout ça, moi, je le fais carrément déposer, tout en réglant, bien sûr, le problème d'humidité en amont.
Justement, pour le plâtre, on ne pourra pas mettre d'enduit chaud chambre par-dessus.
Non, parce que ce ne serait pas opportun. Souvent, le plâtre, on le trouve plus dans l'habitat urbain. Et gardez-le, ça ferait bizarre de mettre du chaud chambre sur...
Mais c'est le plâtre. Oui. C'est proscrit, hein.
C'est proscrit. En plus, c'est proscrit, ça ne tiendrait pas de toute manière. Non, voilà.
Actuellement, si on va acheter du liège vraiment écolo, il faut le prendre au Portugal avec les normes européennes, etc. Sinon, il vient des pays, encore une fois, du tiers-monde, de l'Afrique, coup, le chêne de Liège, la culture du chêne de Liège ne sera pas aussi bien réglementée que dans un pays d'Europe.
Alors, heureusement, les fournisseurs locaux, ils ne les vendent que venant du Portugal.
Voilà, alors effectivement, il faut faire attention à cette provenance. Et moi, j'ai un problème. On trouve facilement des peintures écolo, maintenant, naturelles, sans tout ce qu'on dit. Mais moi, je suis à la recherche, et je n'ai pas encore trouvé de solution, de papier peint écolo, c'est-à-dire du papier peint qui soit uniquement du papier avec des encres non aussi.
Mais ça existe. Oui, oui, il y a des marques, je ne les sais pas comme ça, mais je sais que ça existe. Il faut voir sur Internet, taper le nom.
Ça fait 10 jours que je cherche sur Internet et je ne trouve pas. J'ai trouvé des marques anglaises, Graham et Brown.
Ah ben bah voilà, faire très attention parce que alors lessivable et tout, surtout alors, pas. Ouais.
Là, franchement, il y a un créneau qui est complètement vide.
Mais j'ai entendu dire que ça existait pourtant. Alors, c'est arrêté par manque de clientèle, par manque de publicité. C'est vrai. Eh ben, il y a des trucs qui se sont arrêtés, mais qui reviennent maintenant qu'il y a un engouement, que les gens sont au courant, etc.
Il y a une mode sur la peinture, alors il y a beaucoup plus de peinture.
Alors c'est ça aussi, c'est qu'on vend beaucoup moins de papier peint aujourd'hui, ça c'est ça.
Le tout quand même, Mangoni, dans son livre et dans ça, il dit qu'il y a certains encore petits ou les artisans, moi je ne sais pas tout, mais honnêtement, je ne sais pas trop. Et puis,
alors c'est vrai que moi dans ma pratique, je pose, j'ai pas eu encore à poser du tout de papier peint. C'est vrai que je suis plus sur les enduits ou le bois.
Dans une maison bourgeoise, il y avait des papiers peints.
Tout à fait, oui.
Genre, je sens si vous connaissez sa maison. Je crois que c'est là une recherche du papier peint.
Très bonne remarque.
Jean-Paul Bonnier, il parlait donc de l'isolation des cons. Je suis un peu de son avis qu'autrefois ça ne s'isolait pas. Mais la maison que je viens d'acquérir est une maison où il y avait des domestiques en haut. Et néanmoins, quand même, on avait un petit peu isolé avec torchis, lartis,
oui,
des choses
oui,
comme ça.
Oui,
alors, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'isolation? Et est-ce qu'on peut les reconstituer?
Oui, 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 c'est vrai. On avait des espèces de torchis à la terre avec de la paille et retenu avec des petits lattis pour le plâtre.
Si une face du bois est à l'air, il n'y a pas de souci. Si une face du bois, j'entends bien. Par contre, quand on parle de 30 cm, là, il n'y a pas de souci.
Mais tu as raison, et d'autant plus que je rajouterais qu'on rajoute du poids avec toutes ces structures bois qu'on est obligé de rajouter pour tenir l'isolant. Et bien des fois, la charpente n'est pas assez costaude pour qu'on lui rajoute du poids par en dessous. Parce que des fois, on est obligé de remettre des vraies bastingues, carrément des pannes, des fois, pour rattraper les dessins.
Le changement entre le 20 et le 30 cm fait un changement de structure
énorme.
Très, très différent. Ouais, c'est ouais. Jusqu'à du 20, du 25.
C'est encore gérable.
C'est encore gérable.
Ouais. Parce qu'on se sert des pannes, justement.
Mais sitôt, on va passer tout au-delà. Fait. En fait, ouais. On va passer avec des poutres treillis. Mm-hmm. Et qui ont des avantages, qui vont éliminer certains points interdits qu'on peut avoir avec des bois.
C'est vrai. Et du poids plus léger.
C'est une autre conception.
C'est vrai.
On va continuer les questions. Dans le
problème.
Les dalles, oui, les dalles changent.
Ce que je fais en ce moment, je ne fais pas du chauchant. Je voulais revenir d'abord sur le géotextile. Tu voudrais expliquer ce que tu as dit là, sur cette partie?
Alors, moi, j'utilise le géotextile simplement pour éviter que tout ce qui est la laitose de la chaux, lorsqu'on va couler la chape, les cailloux, tout ça, ou le sable, enfin, passe à travers et aille s'immiscer dans mon hérisson qui est fait de cailloux et d'air. Alors, du coup, après, il n'y aurait plus d'air et par capillarité, toute l'eau remonterait, du coup, dans ma dalle. Donc, pour éviter que ça se mélange, tout ça, mais sans empêcher par contre l'eau que je vais déverser pour faire mon mélange humide, sans empêcher que aussi la vapeur d'eau de la maisonnée passe à travers le sol, et pareil pour tout ce qui viendrait du sol, toute cette vapeur d'eau puisse passer aussi à travers la dalle. Parce qu'avec un polyane, c'est tellement étrange que toute cette vapeur d'eau, surtout qui viendrait du sol, elle ne pourrait pas s'évaporer, et donc du coup elle remonterait d'autant plus dans les murs. Et... Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à une contradiction près. On me dit que le géotextile n'est pas une fibre naturelle. Ouais, voilà. Alors, on pourra poser la question justement à nos vendeurs.
Tous les
noms tissés ne sont pas.
C'est des produits pétroliers. Hein.
C'est des produits pétroliers, c'est vrai.
Cela dit, pour faire. Si on fait une dalle très sèche, si on fait un mortier sec.
Oui, alors on peut faire des dalles chauffantes, pratiquement sèches, où il y a très peu d'eau.
Sans géotextile, on pose direct sur le lancagulement.
C'est vrai, mais
si ça rentre d'un demi-centimètre, c'est bien le maximum. Hein.
Tu as raison, oui, c'est vrai. Mais on peut avoir une dalle quand même. Aussi. Le naturel n'est pas forcément sain, et le radon, c'est tout à fait naturel.
De toute façon, à un moment donné, pour traiter les salles de bain,
oui,
tu vas mettre des produits pour traiter l'étanchéité. L'étanchéité, même sur une toiture végétalisée, on va la traiter avec du bitume ou des produits dérivés.
Dans les salles de bain,
exactement, alors voilà. Moi j'ai la chance d'avoir des clients qui peuvent se payer des tas de lacs, des sols en teck.
Enfin, voilà.
Alors oui, il y a l'histoire de radon.
On va y revenir.
On peut faire une dalle chauffante, mais on ne peut pas faire une dalle chauffante sur un polyane. Effectivement, je fais une dalle chaud-liège. Donc voilà, j'ai rassemblé les éléments.
D'accord. Et oui, c'est vrai qu'on est obligé de tâtonner un peu, surtout que quand on est architecte, maître d'œuvre, tous ces matériaux n'ont pas forcément des DTU, et donc c'est un peu limite, hein. Mais on le fait quand même, on est militant.
Attends, il y avait une question.
Oui, justement, le radon a été trouvé. Nous avons deux enfants qui construisent et qui rénovent, et ils ont fait d'abord des mesures de radon.
De radon ? Alors il faut non seulement bien isoler la surface de son habitat du sous-sol. Alors ça dépend, est-ce qu'il y a un sous-sol ou pas ? Non, c'est sur la terre elle-même. Et il faut alors à ce moment-là faire soit un vide sanitaire ventilé avec une très bonne isolation entre le vide sanitaire et l'habitat. Soit on fait ce qu'on appelle un hérisson aussi ventilé, mais pareil, avec une très bonne barrière étanche. En tout cas, ce qui est surtout important, c'est de l'évacuer, ce radon, donc de mettre le paquet sur la ventilation. Et des fois, elle est même obligée d'être mécanique, parce que naturelle, elle ne suffit pas toujours. Le radon est de toute façon un gaz lourd, donc normalement, il devrait... rester en bas, quoi, et pas monter indéfiniment aux étages.
Le facteur numéro un pour lutter contre le radon, c'est la ventilation, c'est l'air. Il y a eu une période, un moment où c'est devenu une cause nationale. Là, il y a eu des tests en Corrèze, il y a eu des écoles fermées, une période. Parce qu'ils avaient des trop hauts taux de radon d'après les réglementations.
Et deuxième cause du cancer du poumon.
Et la première politique qui a été appliquée, c'est on ouvre les fenêtres 5 minutes toutes les heures dans l'école, ils sont revenus faire les tests, et le taux il est divisé par au moins 2. direct. Et en général, ce qu'on se rend compte, c'est quand il y a des tours et des radons, et ben c'est des maisons, il y a eu une cimentation des murs, il y a eu des caves fermées, il y a un problème de mauvaise ventilation, il y a un problème d'accumulation d'humidité. Et en général, quand, de toute façon, quand on intervient en isolation, on doit régler tous ces problèmes d'humidité, de ventilation, dans la logique, on va diminuer le taux de radon. Hein. On n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à l'écran plastique.
C'est vrai.
Juste pour faire la suite à la question du monsieur, qu'est-ce que vous pensez justement, quand on a fait le hérisson, de mettre pour ventiler des briques plates, creuses, oui, celles qui sont plates, qu'on met en lit, et qui justement permet cette ventilation, puis après on continue avec une dalle.
Tout à fait, c'est très bien.
C'est
encore mieux.
Ça peut diser, qui justement peut permettre par rapport aux travaux radés.
C'est une très bonne solution, ça peut même se faire avec des entrepôts béton.
Oui.
Le système plancher béton très lourdi, on ne prend pas les coups très lourds, on prend juste les ourdis comme ça sur un lit de sable.
Oui, voilà.
Donc ça fait, en plus on diminue les épaisseurs, parce que le problème c'est que passer sur des gros encaillotements, on se retrouve avec des épaisseurs de 20, sur une dalle chauchante,
oui,
la réglementation c'est même 25,
25
avec la dalle plus le
et on n'a pas toujours...
Vous êtes sur des décaissements de 40,
voilà, on a pas toujours la
hauteur du rocher sous les fondations, c'est complètement abruti sur du bâti ancien. Alors vous avez un sol dur de base, donc là ça permet de diminuer les épaisseurs et puis ça fait une ventilation, ça c'est absolument...
Et puis même en main d'œuvre, c'est moins cher parce qu'en main d'œuvre, en main d'œuvre c'est beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas des tonnes de cailloux à apporter et ça se pose très vite.
C'est une très bonne solution. La solution c'est qu'au lieu de faire de l'encaillotement, tu poses, par exemple, tu peux le faire en brique creuse. Des petites des briques de cloison, hein, des petites briquettes, tu mets un lit de sable sur ton fond de
parce que c'est rarement, surtout si on a du rocher.
Tu poses les briques côte à côte de façon à ce que toutes les alvéoles soient dans l'enfilade. Tu laisses un tour tout autour pour qu'il y ait de la ventilation. Tu fais un petit coffrage à la chaux, puis tu laisses juste une petite, un bout de tuyau pour laisser passer l'air. Et puis il faut que ce flux soit ventilé sur deux faces orientées différemment. Et puis du coup t'as dalle de chaux direct dessus et voilà.
Ça fait des résultats remarquables. On l'a vu sur une maison qui était ultra humide. Personne n'y aurait vécu.
C'est pas des TU.
C'était une cave. Et ben ça a été réglé à jamais. Et puis sans les histoires de moisissures, parce que moi ce qui me met très en colère, c'est que très souvent des gens qui ont une résidence secondaire en Corrèze et qui habitent Paris par exemple, ils pensent que leur maison limousine, ils ont des odeurs de salpêtre sur tous leurs vêtements quand ils reviennent à Paris. Ils disent « Ah, c'est l'odeur de la campagne !» Mais pas du tout. Alors là, je suis furieuse parce que non, toutes nos maisons anciennes, elles ne doivent pas sentir le salpêtre. Si elles sentent le salpêtre, c'est parce que justement, elles ont été cimentées, parce que des maisons qui ont été remises avec des enduits à la chaux, où on a enlevé tous ces joints au ciment, etc., qu'on a laissé respirer de nouveau, et ben elles ont beau être fermées 6 mois de l'année, quand on y revient, elles ne sentent pas du tout le salpêtre. Elles sentent très bon si on rajoute du chaud en plus.
Il faut savoir que pour combattre l'humidité, le principe numéro 1, c'est l'air. L'air va évacuer l'humidité. Vous avez tous fait l'expérience. Pour savoir d'où vient le vent, vous mouillez votre doigt, et ben le côté qui est au vent, il est direct sec. Le vent, il enlève tout. Donc ventiler, le drainage, c'est ventilé, le hérisson, il faut que ce soit ventilé, parce que faire un hérisson comme ça,
oui,
c'est
faire
pas
juste
suffisant.
Des cailloux, c'est pas suffisant, il faut mettre du drain dedans,
il faut qu'il y ait de l'air qui passe, et on supprime énormément des problèmes de...
Alors souvent on me demande, est-ce que si on m'a dit que la terre était chaude, est-ce que si je vis directement sur ma terre, c'est pas mieux quoi. Sauf qu'en pratique, dans les maisons anciennes de mon périmètre, en tout cas en Corrèze, on a rarement un sol chaud, hein, on est sur des rochers plutôt humides, donc moi j'ai jamais pu en tout cas mettre à... un projet comme ça avec mon vie sur la terre. Il a fallu toujours drainer, isoler. Oui, sur la terre.
La question.
Alors, pardon, oui, directement sous les tubes.
Entre les chevrons, il y a quelque chose. C'est comme du plat.
Parlez dans le micro.
Oui, c'est comme du plat, c'est un peu épais.
C'est du plâtre gros.
Oui.
C'est souvent des pratiques comme toi, tu parlais, François. Toi, tu connais mieux le plâtre.
5-6.
On est en train de l'enlever. C'est assez lourd. Si vous voulez la renforcer, vous allez encore alourdir, effectivement. Donc vous pouvez légèrement enlever ce plâtre, mais c'est quand même dommage. Il faudrait... Parce qu'il a toutes les qualités requises pour être respirant.
Hors d'air.
Hein?
Il empêchait les courants d'air, en fait.
Hors d'air, quitte à le.
Mais aujourd'hui, peut-être moins.
Moi, je pense qu'il faut.
Il faut voir, en fait.
C'est simplement une question de surpoids.
Jean-Paul a peut-être une
réponse. Il faut préciser que les plâtres, il y a d'origine le plâtre gros. Et ça, il a de la particule, il a de l'épaisseur, ce qui fait qu'il a une certaine respirabilité. Par contre, ce qu'on va rencontrer dans le Limousin, dans l'habitat, très souvent, c'est du plâtre, plâtre serré, le même plâtre de Paris. C'est un plâtre qui est de plus en plus fin, et qui est très serré, et qui a très peu de respirabilité.
Et c'est pour ça qu'il est gorgé d'eau.
Celui-là, il faut bien distinguer.
Ah, mais moi, je relève systématiquement.
Si vous voulez du plâtre gros ici, je vois comment tu se passe. Et pourtant, ça arrive à solutionner parfois pour certains cas. Mais c'est bien deux choses différentes. Pas pour
tout à fait.
Je vais
juste préciser.
On n'est pas des gens.
C'est des gens qui sont allés chercher à Paris.
J'ai entendu parler de suspens de métallique, mais donnez le micro à la salle.
On a parlé à un moment donné de suspens métallique, qu'il fallait éviter les ferraillages, des choses comme ça pour suspendre les plâtres. Récemment, moi j'ai pris 42 vies et le plâtrier, je voulais pas le refaire un plafond sur brique, etc. Je préférais mettre une vraie plaque de plâtre et donc les suspendre sur des morceaux de bois, je ne sais pas le nom. Et il m'a dit, oh, c'est interdit au DTU de faire des suspentes en bois, il les faut en métal et il faut tout. Alors là, ça c'est la réponse. Quand tu veux faire quelque chose à un artisan et qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas, je ne sais rien, c'est interdit.
Alors je vais vous expliquer le cas pratique, c'est que les plaques de plâtre, très souvent, après quand on met des bandes, des fois ça ne suffit pas. Une fois que la peinture est toute faite, les gens se mettent à chauffer et badadram, il y a des fentes partout et on vous appelle furieux en disant j'ai des fentes partout, c'est monstrueux et tout. Alors moi c'est un matériau que je crains beaucoup, les plaques de plâtre, parce que même des fois sur les suspentes métalliques où on dit que justement ça joue moins que le bois, y a quand même des problèmes aussi. Mais c'est à cause de ça, c'est parce que le bois bouge, travaille, forcément il vit. Et donc les plaques, elles sont rigides, elles sont posées sur un matériau qui bouge, et donc forcément dans le temps, ça...
Je ne sais pas comment la structure a été faite au départ, et suivant comment la charpente elle travaille aussi. C'est la charpente. Ici, bien sûr, il y a des plaques.
Oui, mais là, on a une élasticité quand même du plâtre qui est tiré, qu'on n'a pas avec des plaques qui sont, elles, rigides, et où on fait un pauvre joint comme on peut pour résoudre...
Les plaques de fer macelle qui n'ont pas de joint.
Alors en plus, c'est encore pire, elles ont... mais maintenant, ils se sont mis à faire des joints à minci. Oui. Enfin bon, j'ai des désordres, moi, sur des chantiers à cause de ça, m'en parlez pas. Donc voilà, on est dans les histoires d'assurance et tout ça, voilà. Et... Non, il n'est pas interdit. Il y a, avec Fermacell, ils permettent les suspentes en bois, mais il y a des. Il faut très bien coûter, il faut que la colle elle ne rejette pas la plaque, il faut remettre des bandes, enfin c'est très encadré. Et puis surtout, il y a des gens qui sont électrosensibles, et ça, c'est le domaine des électriciens qui vont vous parler tout à l'heure. Et donc, plus on met de métal, plus on complique l'histoire de l'électromagnétisme ambiant de la maison. Et ça, au sujet suivant.
On peut mettre des OSB à la place du plateau, des OSB, des matériaux.
Du lambris.
Oui, oui, on peut passer avec du bois, mais, et qu'on peint en blanc si on veut du blanc.
En fait, pour répondre à la question entre le bois et le métal, il faut arriver avec le bois à faire des suspentes souples. Parce que ce qu'on fait, quand on fait la souffrance, on fait comme un espèce de plateau. Si ce plateau il est un peu indépendant du mouvement de la charpente, il va pas fissurer. Mais s'il est directement lié à cette sous-charpente, il va boucher avec. Voilà, c'est ça le problème.
Tous les fentes après partout.
Tous les fentes, voilà. Mais sinon, si on arrive à faire des suspentes en bois, on peut en faire. Mais après, il faut trouver des espèces de rails en bois. Enfin, c'est pas si facile. Enfin, on peut le faire. C'est à la portée de n'importe quel.
C'est latin.
Métallique, on en trouvait quasiment ça. Et on le faisait en cascade et on faisait ça au couleur. Donc, ça, actuellement, il y a un lobby pour interdire le bois, donc ça va rouler. Néanmoins, c'est tout à fait faisable et il n'y a pas de fente.
Je viendrai te voir.